Katia Beach.
Un coup dur pour l'économie suisse, les droits de douane à 39% décidés par Donald Trump, annoncés hier, suscitent de vives inquiétudes parmi les branches les plus touchées, l'horlogerie, une industrie qui dépend à 95% de l'exportation et dont les États-Unis sont le principal client. Si cette mesure entre réellement en vigueur le 7 août prochain, l'impact sera donc très important. Mais Yves Buchmann, le président de la Fédération de l'industrie horlogère, veut rester optimiste et croire à une bonne renégociation possible durant la semaine à venir.
Mais je pense que la porte n'est pas complètement fermée. C'est probablement pas anodin que le président Trump a fixé un délai supplémentaire de 7 jours. Ça nous permettra certainement de négocier encore une fois et d'obtenir une meilleure solution. En tout cas, c'est une priorité pour l'horlogerie suisse que le Conseil fédéral et le SECO puissent négocier une meilleure solution pour notre branche et pour toute l'économie suisse.
Vous y croyez? Vous pensez qu'il y a une chance, il y a une vraie marge de manœuvre du côté de la Suisse?
Je pense qu'il ne faut pas céder au fatalisme. Il y a toujours une opportunité pour négocier une meilleure solution.
Des propos recueillis par Déborah Solbank. Et évidemment, l'annonce de ces taxes douanières a fait réagir la classe politique, à droite comme à gauche. Le ministre de l'économie, Guy Parmelin, a estimé que la Suisse a été spécialement maltraitée dans ce dossier. Le conseiller fédéral Albert Rochti, pour sa part, estime que la Suisse a effectivement des leviers de négociation et qu'il faut les exploiter. Et dans cette guerre commerciale mondiale que livre Donald Trump, un pays semble épargné, le Mexique, qui bénéficie d'un troisième sursis. Donald Trump a également qualifié la présidente mexicaine de femme merveilleuse. En revanche, pas d'accord signé entre Ottawa et Washington. Le Canada encaisse une nouvelle hausse des tarifs douaniers américains de 35% sur les produits non couverts par l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le premier ministre canadien défend sa position avec fermeté. Notre correspondante à Montréal, Camille Ferreisen.
Si le premier ministre Mark Carney se dit déçu de ne pas être parvenu à une entente avec son voisin américain, il ne s'avoue ni résigné ni vaincu, mais insiste plutôt sur la solidité de l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui protège plus de 90% des exportations canadiennes exemptées des droits de douane à 35%. Il promet aussi de renforcer le commerce intérieur, diversifier les marchés d'exportation et d'investir massivement dans l'économie nationale. Pas de contre-tarifs donc pour l'instant. Ottawa mise sur la stabilité tout en promettant de soutenir les marchés sectoriels lourdement visés par Washington. Automobile, aluminium, bois d'œuvre. Mais l'inquiétude est palpable. Le Mexique a obtenu un délai de 90 jours pour négocier. Le Canada, lui, n'a rien obtenu. Pour plusieurs observateurs, c'est le signe d'un affaiblissement du poids diplomatique canadien à Washington. La révision de l'accord de libre-échange approche et Ottawa sait qu'il faudra mettre les bouchées doubles pour défendre ses intérêts. D'ici là, les entreprises canadiennes restent plongées dans l'incertitude, au point où nombreux sont celles qui mettent leurs investissements sur pause. Camille Feyreisen, RTS, Montréal.
Et cette poussée de fièvre entre les États-Unis et la Russie, Donald Trump a déclaré avoir ordonné le positionnement de deux sous-marins nucléaires américains en réponse à des propos provocateurs de l'ex-président russe Dmitri Medvedev. Vladimir Poutine avait de son côté annoncé que la Russie aurait lancé la production en série de son missile hypersonique de dernière génération, un missile qui peut porter une charge nucléaire. Une lettre pour Gaza. Hier à Fribourg, les trois conseillers fédéraux venus pour le 1er août ont reçu une lettre de la part du collectif Solidarité Palestine Fribourg. Dans cette lettre, six revendications, dont un cessez-le-feu à Gaza. Elisabeth Baumschneider et Martine Pfister ont reçu ces militants et militantes à huis clos pendant 30 minutes. Pour Elisabeth Baumschneider, il était important de leur faire savoir qu'ils étaient entendus.
Je comprends que la société civile est impatiente, en a marre, estime qu'il faudrait agir par rapport à ce drame humanitaire que personne ne peut contester aujourd'hui, hein, pas seulement au niveau des images qu'on voit, mais les informations dont on dispose. Donc je les ai assurés qu'on en discute. On a aussi vu que la position du Conseil fédéral évolue, de reconnaître aussi à terme la possibilité d'une solution à deux États. On y travaille, mais je comprends le décalage entre un exécutif, hein, d'ailleurs que ce soit le Conseil fédéral ou au niveau d'un canton ou d'une commune, et ce que les gens attendent d'une manière immédiate, parce que quand on voit les gens avoir faim, on ne peut pas tout à fait se contenter du discours diplomatique ou institutionnel. Mais en même temps, on travaille avec les outils qui sont les nôtres.
Plus d'un million de jeunes catholiques du monde entier sont attendus aujourd'hui à Rome pour participer à une veillée de prières géante avec Léon XIV qui doit arriver en hélicoptère. Les pèlerins passeront la nuit sur une esplanade d'une centaine d'hectares où ont été installés des écrans géants jusqu'à la grande messe de clôture présidée par le pape américain demain matin. L'organisation de cet événement a constitué un défi logistique hors norme pour les autorités avec quelques 10 000 personnes déployées, des policiers et des agents de la protection civile. Il s'agit du point d'orgue du jubilé année sainte de l'Église catholique célébré tous les 25 ans. Et puis, un mot de sport, en tennis, c'est terminé pour Belinda Bencic au tournoi de Montréal. La Saint-Galloise a été battue 6-7, 6-2, 6-3 cette nuit au troisième tour par la Tchèque Karolina Muchova. La météo, aujourd'hui le temps sera nuageux avec des averses en début de journée. Dans le courant de la matinée, passage à un temps assez ensoleillé sur le plateau avec encore quelques averses isolées jusqu'en début de soirée. Il fera de 14 à 23 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
De l'élégance lumineuse de Mendelssohn à la puissance expressive de Brahms, ce samedi, au Festival de Verbier, l'orchestre de chambre de Verbier, dirigé par Theodor Currentis, interprète la 4e symphonie, l'italienne, de Mendelssohn, et le concerto pour violon de Brahms avec le violoniste belge Marc Bouchkoff. Rejoignez-nous ce samedi, dès 19h30, dans l'été des festivals, sur RTS Espace 2 et RTS Play.
Du bon pied, Marin Piguet.
Du bon pied dans en édition du samedi 2 août 2025. RTS Espace 2 est toujours là pour vous aider à vous lever du bon pied dans cette production de Delphine Torrance. Restez à l'écoute puisque d'ici une dizaine de minutes, nous jouerons ensemble pour notre concours. Et à 8h30, nous recevrons Jacques Poget pour son billet d'humeur. Et peut-être d'autres surprises en termes d'agenda viendront même parsemer cette émission. Thank you. Philippe Glass, à l'instant sur RTS Espace 2, est la 9e étude de son livre, un des études pour piano, avec Vingegård Olafsson au piano.
Espace 2.
Schubert tout d'abord, avec son quatuor à cordes numéro 14 en ré mineur, La jeune fille et la mort, son fameux scherzo, dans l'interprétation du quatuor à cordes Takács, qui s'en est suivi donc de ce petit extrait choral de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, Marc Minkowski, la tête des musiciens du Louvre de Grenoble, pour nous mener à 8h15 sur RTS Espace 2, vous savez de quoi il en retourne.
Le concours avec les bons sirops Morand.
Trois bouteilles offertes par les bons sirops Morand à Martigny, à celui ou celle qui trouve la bonne réponse à notre concours et qui nous en fait part par mail à l'adresse dubonpied@rts.ch, tout en précisant également son adresse postale en plus de la bonne réponse. Bonne réponse qui va justement concerner Jean-Sébastien Bach, puisqu'il était connu pour recycler plusieurs de ses thèmes musicaux. Eh bien, je vais vous proposer d'entendre une œuvre musicale que vous allez sans doute reconnaître avant d'être surpris par le texte, puisqu'il s'agit en fait d'une cantate profane que l'on va entendre donc à l'instant. Et la question à laquelle vous devez répondre, c'est dans quelle autre œuvre Jean-Sébastien Bach a utilisé cette musique, une autre œuvre beaucoup plus connue. Je n'en dis pas plus, on écoute Jean-Sébastien Bach et vous envoyez vos réponses à dubonpied@rts.ch.
Thank you. Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Une cantate composée par Bach pour un anniversaire, celui de Maria Josefa, reine de Pologne et électrice de Saxe, qui donc vient faire office de concours anniversaire aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas d'anniversaire notable de compositeur. Donc, où a recyclé cette pièce Jean-Sébastien Bach? Vous êtes déjà nombreux et nombreux à avoir trouvé la bonne réponse, mais continuez d'écrire avant le tirage au sort.
Thank you.
Les mystères célestes de la suite Les Planètes de Gustav Holst, à l'instant le sixième mouvement Uranus, dans l'interprétation de Simon Rattle à la tête du Philharmonique de Berlin. 8h30 sur RTS Espace 2 à l'enseigne du Bon Pied, l'heure du biais de Jacques Pogé.
Frère Jacques, dormez-vous.
Bonjour Jacques.
Bonjour Marin. Hier, 1er août, sur nos monts, le soleil annonçait un cuisant réveil. L'éruption solaire trumpienne est venue carboniser notre confiance dans notre relation spéciale, si spéciale avec les États-Unis. Elle est vraiment spéciale. 39% de taxes douanières. Oui, c'est un traitement de faveur. Nous taxer 24% de plus que nos voisins et concurrents européens. Sympa.
C'est vraiment sympa comme cadeau de fête nationale.
Pas facile d'être un gentil petit pays dans une jungle sans foi et où ne vaut qu'une seule loi, celle du plus fort. Et pourtant, ça dure depuis 7 siècles. Si le mythe du Grütli est véridique, il y a 734 ans exactement que les confédérés subsistent et défendent leur liberté au milieu de voisins puissants et dominateurs, pas toujours bien intentionnés vis-à-vis de la petite peuplade. J'y pensais en écoutant un débat sur l'opportunité ou non de reconnaître un État palestinien. Il paraît que ce serait prématuré. Ils le disent sans rire. Parce que ce que nous fêtions hier, ce que nous défendons bec et ongles depuis 7 siècles, c'est ce que les Palestiniens réclament. Un territoire à soi, la liberté dans ses frontières. Alors que pour l'instant, on leur refuse les droits humains, tout simplement. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Ça, c'est l'article numéro 3 de la Déclaration universelle des droits humains. Et pour ce qui est des articles 1 et 2, c'est aussi une amère rigolade. Vous voulez bien lire un ?
Alors, l'article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Il y en a qui sont plus égaux que d'autres et moins doués de conscience. Quant à la fraternité, on a dû l'égarer en même temps que la liberté. Article 2, Marin, s'il vous plaît.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
C'est beau comme de l'antique. Pour faire bon poids, je vous cite aussi l'article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ça sonne bizarre quand on pense aux enfants qui meurent de faim à Gaza et aux affamés qui se font tirer dessus quand ils vont chercher des vivres. Il y a tellement de tués lors des distributions qu'un journal titrait « Il faut risquer sa vie pour un kilo de farine ». Dans le magazine The New Yorker de ce matin, nous luttons, nous pleurons, nous survivons et nous travaillons, tout cela en même temps. Les professionnels de la santé mentale de Gaza s'efforcent d'aider les habitants qui sont en proie au chagrin, à une famine généralisée et aux terreurs quotidiennes liées à la survie. Allez, pour la bonne bouche, allez, encore le dernier article, la Déclaration universelle des droits humains. Marin, merci.
C'est l'article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés qui y sont énoncés.
Il y a comme un léger hiatus entre les engagements signés et la réalité. Sans État palestinien, les Palestiniens ne bénéficieront jamais des droits garantis par la Déclaration universelle. Alors Marin, j'ai encore une citation, elle vient de Londres, la Chambre des communes. « Le gouvernement israélien actuel exploite sans pitié et avec cynisme la culpabilité persistante des non-juifs face au massacre des juifs pendant l'Holocauste pour justifier le meurtre des Palestiniens. » Sir Gerald Kaufman, le député britannique qui a prononcé ces mots à la Chambre des députés, avait soutenu passionnément l'État d'Israël, en particulier parce qu'il avait une grand-mère juive polonaise assassinée dans sa maison par les nazis. Et pourtant, Sir Gerald Kaufman a dû un jour déclarer « Ma grand-mère n'est pas morte pour servir de couverture aux soldats israéliens qui assassinent des grand-mères palestiniennes à Gaza ». Alors figurez-vous que sa déclaration ne date pas d'hier. Sir Gerald Kaufman est mort. Sa déclaration date de 2009, lors des représailles israéliennes à Gaza contre les roquettes du Hamas. Que dirait-il aujourd'hui le malheureux député britannique amoureux d'Israël et horrifié par son gouvernement ? Eh bien, aujourd'hui, ce sont 400 rabbins du monde entier qui signent une lettre au gouvernement Netanyahou pour exiger qu'il rétablisse l'acheminement de l'aide internationale à Gaza, pleine et entière, qu'il mette un terme à la violence des colons en Cisjordanie, qu'il recherche la paix. Ils affirment que le peuple juif fait face à une grave crise morale. La politique de rétention de nourriture, d'eau et de fourniture médicale auprès d'une population civile dans le besoin sont en conflit avec les valeurs juives. Ce sont des rabbins, pas des antisémites. Ils réclament pour les Palestiniens la dignité et l'espoir et pour toute la région un avenir pacifique. Dignité, espoir, avenir pacifique? Ça sonne un peu comme un discours de 1er août. Mais les feux d'artifice ne sont pas les mêmes.
Félix Mendelssohn et toute sa malice à l'instant de ce scherzo extrait de son quintet à cordes numéro 1 en La majeur dans l'interprétation du Mannheimer Streich Quartet ajouté d'un violon alto supplémentaire. Il est 9h-20 à l'enseigne du Bon Pied sur RTS Espace 2, l'heure de la réponse à notre concours. Il y a 25-30 minutes, je vous faisais entendre une pièce, en l'occurrence une cantate profane de Jean-Sébastien Bach, qu'il fallait trouver dans à quelle occasion Bach avait recyclé cette œuvre. Vous avez été nombreux et nombreuses à reconnaître le premier mouvement de l'oratorio de Noël. Et félicitations à Antoine Berthou qui habite à Vendeuvre et qui a été favorisé par le tirage au sort parmi les bonnes réponses et qui gagne ainsi 3 bouteilles offertes par les bons sirops Morand à Martigny. Félicitations.
La vie côté culture.
Joseph Haydn et cet extrait d'Ariane Anaxos. Jonathan Cohen à la tête de l'ensemble Arcangelo et Kate Lindsay mezzo-soprano dans l'enchaînement de cette transcription de cette marche extraite de la suite jazz de Dmitri Shostakovich, Timothy End au piano avec le quatuor de saxophone Ferio. À 9h-10, l'enseigne du bon pied sur RTS Espace 2, l'heure de décrocher le téléphone.
L'agenda d'Ada.
Puisque lors du Festival international de l'orgue de Valère seront reçus cet après-midi à 16h en la Basilique de Valère l'ensemble Les Traversées baroques. Et nous avons en ligne pour en parler Judith Paquier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même cornettiste à Bouquin dans cet ensemble Les Traversées baroques. Peut-être un mot d'abord sur cet ensemble à géométrie variable en petit effectif cet après-midi. C'est bien cela, comme cela qu'il faut le présenter ?
Eh bien oui, exactement. Cet après-midi, nous serons trois musiciens et c'est vrai que Les Traversées baroques, c'est un ensemble qui existe depuis 2008 et qui est co-dirigé par Étienne Meyer et par moi-même. Et on fait des programmes aussi bien à trois musiciens que à 17, 18, 20, 40 en fonction de là où on nous appelle. Voilà.
Effectivement, également en fonction de la place, j'imagine, qu'il y a dans les différents lieux. C'est peut-être du coup plus convivial de se retrouver juste en trio.
Et oui, puisque ce magnifique orgue donc à Valère nous permet de nous retrouver tous les trois sur la tribune, qui est en fait un nid d'hirondelles. Et c'est vrai qu'avec trois musiciens, on a tout juste la place, donc on est un peu en promiscuité, mais en fait c'est aussi extrêmement agréable de jouer dans ce petit nid d'hirondelles de cet écrin de Valère.
Vous serez donc Judith Paquier avec l'ensemble des Traversées baroques dans ce nid d'hirondelles de Valère. Pour quel type de programme, comment l'avez-vous construit ?
Alors c'est un programme qui est consacré aux œuvres mariales, donc consacré aux œuvres pour la Vierge Marie. Et l'idée c'était d'aller voir ce qui se passe en Amérique latine, puisqu'il y a beaucoup de musique qui a été écrite à l'époque baroque en Amérique latine, la musique voyageant bien sûr, et puis évidemment d'avoir le pendant un peu espagnol, donc pour un programme autour d'œuvres de la Vierge. Ce sont des œuvres qui sont arrangées, puisque normalement elles nécessitent effectivement un peu plus de musiciens, mais en fait ça marche très très bien dans ce format, on s'est bien creusé la tête pour faire de jolies choses avec ces œuvres-là. Et puis bien sûr, la connexion avec les orgues, et c'est pour ça que ça marche bien à Valère, c'est qu'on prend certaines pièces du répertoire d'orgue, et moi en tant que cornettiste, je pique la partie de la main droite à l'organiste, et ça fait de très très belles pièces instrumentales.
C'est vrai que les organistes parfois jouent tout seuls des sonates en trio, donc pourquoi ne pas prendre des pièces seules en trio justement avec ces traversées baroques. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'orgue et que c'est surtout le plus vieil orgue jouable au monde, quel effet ça fait de pouvoir se retrouver sur cette tribune face à une pièce antique et historique ?
Alors, c'est très émouvant parce que cet orgue sonne extrêmement bien. C'est vrai que c'est voilà effectivement le plus ancien orgue jouable au monde. Et c'est vrai qu'en fait moi ce qui m'a frappé hier en répétant, c'est la justement cette promiscuité sur le nid d'hirondelle fait qu'en plus de ça, on a vraiment l'impression de faire partie intégrante de l'orgue et de devenir un jeu supplémentaire de l'orgue quand on est soit chanteuse comme les Capucines Keller, soit moi au cornet à bouquin, et on a vraiment l'impression de faire partie intégrante du clavier.
Est-ce que ça guide votre son également, votre manière de jouer?
Parce que le son, en tout cas le son du cornet est très réagit très bien avec l'acoustique et se laisse beaucoup influencer par les sonorités. Et la particularité de cet orgue, c'est que c'est pas un orgue doux en fait, donc du coup on souffle d'une certaine manière vraiment, on va dire, et
Alors,
le timbre, le timbre de cet orgue-là est assez puissant et très caractérisé. Et puis, il est dans un tempérament qu'on appelle le tempérament mésotonique. Donc, tous les écarts entre les notes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça aussi, c'est quelque chose de très appréciable quand on fait du cornet à bouquin, parce qu'on travaille généralement toujours dans ce tempérament-là. Donc, pour moi, c'est un vrai bonheur de pouvoir jouer avec cet orgue de Valère cet après-midi.
Eh bien, merci beaucoup, Judith Paquier, cornettiste à bouquin dans cet ensemble Les Traversées baroques. On aura eu une petite coupure au milieu, mais on a quand même compris votre propos sur ces orgues de Valère. On s'excuse quand même auprès des auditeurs et auditrices d'RTS Espace 2 qui viendront sans doute, j'en suis sûr, vous écouter cet après-midi à 16h à la basilique de Valère dans ses œuvres mariales. Merci beaucoup, Judith Paquier, et puis à tout bientôt sur RTS Espace 2.
Merci.
Dietrich Buxtehude, à l'instant, dans cet extrait de ses Membra Jesu Nostri, le septième mouvement Ad Ubera Portabimi, dans l'interprétation de Stephen McLeod, à la tête de l'ensemble Lee Angeli. Il nous faut quitter le trio Sitkovetsky dans ce trio pour violon, violoncelle et piano mi mineur de Camille Saint-Saëns, le quatrième mouvement Grazioso Poco Allegro. La raison à cela, c'est bien le rendez-vous des heures pleines à l'enseigne du bon pied sur RTS Espace 2. Je parle bien sûr des informations. Merci d'être à l'écoute. Il est 9h.